Il y a un moment où on prend le temps. Le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
11h06 dans l'Open Mic. Des fois, il y a des... Il y a des choses auxquelles on pense juste pas dans la vie, puis on voit passer une étude là-dessus, puis des chiffres, puis on se dit, ben voyons donc que ça existe. Et c'est un peu le cas par rapport au sujet d'aujourd'hui dans l'Open Mic, puis c'est un texte à la base que j'ai vu passer dans les coops d'information, fait que le soleil et tout ça. Et le titre était « Détresse et pensées suicidaires, entre profs aussi, l'intimidation existe ». Et ce qu'on mentionne, c'est que oui, il y a de l'intimidation entre professeurs dans les universités, et il y a un groupe de recherche qui s'est penché sur la question pour voir comment ça fonctionnait, ces dynamiques-là d'intimidation dans les milieux d'enseignement supérieur. Puis il y a au-dessus de 1000 personnes qui ont répondu. Pour en parler, Catherine Malbeuf-Urtubis, qui est responsable de recherche, psychologue et professeure à l'Université Laval. Madame Malbeuf-Urtubis, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci. Et vous?
Très bien, merci. D'où est venue cette idée-là de se pencher sur cette question-là, alors que, tu sais, je le mentionnais de mon côté, les profs qui s'intimident entre eux à l'université, c'est jamais une idée qui m'est passée par la tête. Mais ce sont des adultes matures qui ont la job d'enseigner à des jeunes adultes qui ont encore tout à apprendre dans la vie. Puis entre eux, ça ne montre pas nécessairement l'exemple. Est venue d'où l'idée?
En fait, l'idée, là, c'est que autour de moi, entre collègues, on est quand même une équipe de recherche là, de quelques-uns sur ce projet-là. Quand on se parlait d'intimidation en milieu académique, là, entre les profs, là, vraiment pas des profs envers les étudiants, mais bien entre les profs eux-mêmes, tout le monde avait soit été témoin d'événements ou avait entendu parler, certains avaient été la cible, puis les collègues de mes collègues aussi avaient été témoins, avaient entendu parler d'histoires d'horreur, souvent, tout ça. Donc, c'est vraiment là la genèse du projet. On s'est dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si tout le monde a une histoire à raconter à ce sujet-là, mais il n'y a pas de recherche qui se fait sur ce sujet-là, il y a comme une omerta, tu sais, les gens n'en parlent pas trop. C'est vraiment ça qui a été comme l'étincelle, l'élément déclencheur.
Comment ça se manifeste, cette intimidation-là entre professeurs?
Ben, tu sais, il faut savoir que, tu sais, quand on pense à de l'intimidation, on pense, mettons, dans la cour d'école, chez les plus jeunes. Puis, tu sais, il y a vraiment, tu sais, ça change sur le plan du développement d'une vie, là. L'intimidation entre les adultes n'est pas du tout la même que celle qu'on voit chez les plus petits au primaire. Fait que chez les adultes, il y a à peu près plus de violence physique, par exemple. Ça, c'est très rare, c'est marginal. Mais là, on parle plus de violence psychologique. Fait que répandre des rumeurs, attaquer la crédibilité de quelqu'un, l'empêcher, tu sais, si on revient au spécifique au milieu académique, ben l'empêcher d'avoir des promotions, d'avoir sa permanence, d'obtenir des subventions, de parler ouvertement dans une conférence que tel collègue est incompétent, tu sais, tout ce qui est atteinte à la réputation, ce qui vise à miner la progression, là, ça, c'est assez commun, malheureusement.
Est-ce qu'on sait ça vient d'où? C'est une histoire de jalousie, une histoire de compétition? Tu sais, vous mentionnez empêcher la promotion. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a un peu d'histoire de compétition puis de jalousie là, qui fait partir ce phénomène-là.
Je pense que c'est vraiment multidimensionnel. Donc, il y a, oui, ben, je veux dire, on est humain comme tous les autres humains. Fait que, donc, oui, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Donc, il y a des histoires de jalousie, probablement. Mais il y a des facteurs systémiques, là. Par exemple, on est tous en compétition pour obtenir des subventions, mais il y a très peu de sous de subventions. Puis, il y a eu des coupes, là, au niveau fédéral, provincial, dans les dernières années. Fait que, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Déjà, ça met la table pour un milieu de travail qui est plus toxique. Après ça, les professeurs entre eux s'évaluent aussi. Tu sais, pour obtenir une promotion, ben, ce sont les collègues qui forment les comités d'évaluation. Pour monter en grade, même mes collègues qui deviennent, par exemple, direction de département, doyen, tout ça, ben, c'est pas forcément des gens qui ont une formation en gestion. C'est des collègues à nous qui progressent dans les échelons. Fait que tout ça fait en sorte que, ben, on se ramasse à être beaucoup en compétition avec l'un et l'autre. Le milieu académique, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup d'échanges d'idées, ce qui est correct. C'est sain, c'est ça qui c'est censé être. Mais quand ça devient une source de conflit, ben là, ça devient plus difficile de débattre harmonieusement, par exemple, ou d'être en désaccord de manière harmonieuse. Puis c'est là que la ligne, des fois, on la dépasse.
Débattre harmonieusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus dans le passé. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, on dirait que c'est quasiment plus possible de débattre harmonieusement. Est-ce que ça a contribué peut-être à l'évolution d'un milieu plus toxique chez les enseignants à l'université?
Ben, j'ai pas la réponse précise à votre question dans la mesure où j'ai pas fait une étude longitudinale. Hein. Je l'ai pas faite sur plusieurs années. Je peux parler de la photo qu'on a en ce moment. C'est sûr que le contexte plus général contribue. C'est sûr que les réseaux sociaux, ils contribuent aussi parce que même dans les, tu sais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos collègues de nous parler des cas d'intimidation qu'ils avaient soit vécu ou dont ils avaient été témoins. Puis tout ce qui ressort, harcèlement en ligne, cyber, harcèlement, tout ça, ça ressort beaucoup. Fait que forcément, l'Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, ça joue, là, dans le portrait, là.
Qui sont les victimes? Est-ce que c'est des plus jeunes enseignants? Est-ce que c'est plus souvent des femmes que des hommes? On a-tu un portrait un peu plus précis des victimes? Puis tu sais, ça peut probablement aller un peu partout, mais la victime type, là.
Ben, j'ai pas de portrait de victime type à vous donner. Ce que nous, on voit, nous, on partait avec certains a priori, certaines hypothèses. Effectivement, que par exemple, les femmes ou les professeurs plus jeunes dans leur carrière seraient plus à risque. C'est aussi ce que la littérature qui existe tend à montrer. Ce que nous, on voit dans nos données, ce qui concerne quand même plus de 1 000 profs au Québec, là, faut le dire. Mais le seul facteur qui est vraiment prédicteur, c'est la présence d'un handicap. Donc, puis un handicap, ça peut être un handicap physique, mais ça peut être un handicap psychologique aussi. Donc, ça peut être des difficultés, par exemple, un trouble de l'attention. Tu sais, on a adopté une définition plutôt large, mais ça, c'est la seule variable qui nous permet de dire que quelqu'un qui a un handicap est vraiment plus à risque, soit de subir de l'intimidation ou d'en être témoin.
Et est-ce que dans certains départements, on se rend compte que c'est plus toxique ou c'est assez répandu dans tous les départements universitaires?
Je ne veux quand même pas dire que le milieu universitaire au complet est toxique, là. Je veux quand même être bien clair. Il y a des départements qui fonctionnent super bien où les gens s'épanouissent au travail, puis il y en a d'autres qui sont plus toxiques. Est-ce que c'est relatif à un type de département? Spontanément, c'est pas ça qu'on a comme information. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que les cas d'intimidation diffèrent selon les domaines. Fait que, par exemple, dans sciences naturelles, ou en génie, ben, il y a plus de vols de brevets. Alors que, par exemple, moi, je suis en psycho, en sciences sociales, il n'y a pas vraiment ça. Ça a l'air d'autre chose, l'intimidation. Dans notre cas, c'est plus répandre des rumeurs, miner la réputation. Fait qu'on voit vraiment que selon le domaine d'appartenance, les comportements qui sont adoptés diffèrent.
Maintenant qu'on a ces chiffres-là, est-ce qu'on a des pistes de solutions? Parce que ça a été mentionné tantôt, là, où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, puis je veux dire, de l'intimidation, ben il y en a dans tous les domaines. Puis est-ce qu'on a des solutions qui pourraient s'appliquer plus concrètement au niveau universitaire?
En fait, moi, je vais vous dire bien franchement, là, moi, je ressens une grande impuissance par rapport à ce projet-là. Je suis contente de voir que les collègues ont participé. C'est une super bonne nouvelle pour notre projet. C'est pas une super bonne nouvelle pour l'état du milieu académique. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose à dire. Puis il y a beaucoup d'impuissance à la fois de la part des participants à notre recherche et de nous en termes de, il faut proposer des solutions, mais où est-ce qu'on va? J'ai pas la solution magique à vous proposer. On a fait un colloque la semaine dernière dans le cadre de l'ACFAS, puis là aussi, on avait des intervenants, des gens des milieux syndicaux, des gens des milieux de la haute administration, des profs, dans différents domaines. Puis, c'est comme si tout le monde en blague s'excusait au début de sa présentation pour dire, là, j'ai malheureusement pas la solution, mais je vais vous parler de certains trucs. Fait que ça reste à faire. Je pense que de conscientiser les gens puis de briser l'omerta dont je parlais, c'est comme une bonne première étape pour qu'on s'engage vraiment dans une conversation ouverte et transparente puis espérer faire évoluer les choses.
Les profs qui votent sur les promotions de leurs pairs, qui s'évaluent entre eux, ça crée de la compétition. Là-dedans, est-ce qu'il y a peut-être une piste de solution de se dire, ouais, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, puis peut-être que ça crée encore plus de compétition qui malheureusement peut créer ou amener de l'intimidation?
Je pense que ça dépend de la toxicité du département au départ. Tu sais, parce qu'il y a aussi des départements qui fonctionnent très bien dans cette modalité de co-gestion-là, puis où les collègues sont bienveillants. T'sais, où les collègues visent pas non plus à freiner des carrières, mais bien à être constructifs. T'sais, on peut penser à est-ce qu'on fait une critique constructive ou une critique destructive, c'est le même principe. Fait que j'irais pas jusqu'à dire que ce modèle-là est mauvais, mais je pense que peut-être qu'il y a lieu d'être plus flexible dans l'adaptation à la réalité du terrain, dans le fond. Après ça, il y a différents modèles qui existent. Il y a des modèles où c'est un comité universitaire qui évalue les demandes de promotion avec des gens de plusieurs domaines. Fait que ça a du bon dans la mesure où ça réduit les conflits d'intérêts. Ça a du moins bon dans la mesure où ils ne comprennent pas nécessairement les réalités de chaque domaine des gens qui y appliquent pour une promotion. Fait que, t'sais, il n'y a pas de solution magique, mais je pense que c'est dans la flexibilité peut-être qu'on va y trouver notre compte, là.
Puis au niveau des demandes de subventions, ça, c'est aussi quelque chose à quoi j'avais pas pensé du tout. T'sais, les profs ne veulent pas se battre pour des subventions. Là aussi, il y a un esprit de compétition qui peut s'installer. Ça, c'est probablement un problème encore plus important là, que l'histoire des promotions.
Ben oui, dans la mesure où il y a une large part de notre travail qui repose sur faire de la recherche. Puis pour faire de la recherche, il faut avoir les moyens de la payer. Puis pour avoir les moyens, ben, il faut avoir des subventions. Fait que c'est sûr que le contexte aussi est pas favorable à ça, dans la mesure où il y a beaucoup de profs, mais très peu de sous en subventions. Puis ce qu'on voit aussi dans nos données, c'est que les gens qui ont été soit la cible d'intimidation ou témoins d'intimidation, après ça, sont beaucoup moins enclins à aller dans des conférences présenter leurs résultats de recherche. Parce qu'ils veulent pas s'exposer justement à des débats d'idées, même s'ils sont harmonieux. Fait que, tu sais, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, là, ça ralentit le progrès de la science, là. Carrément. Je veux dire, on veut plus s'exposer, on veut plus discuter aussi avec le grand public des résultats de notre recherche. Donc, on arrive à des moments où la société elle-même, ben, peut pas, tu sais, les décideurs publics peuvent pas se baser sur la recherche pour prendre des décisions si les chercheurs vont pas à leur rencontre non plus, là.
On parle beaucoup du phénomène généralement depuis le début. Quelques chiffres là, pour donner une idée aux auditeurs de l'ampleur de la chose. C'est à peu près un enseignant sur deux qui a vécu une expérience d'intimidation chez les professeurs. 28,1% qui a été témoin ou et cible. 12,3% a été cible et 9% a été témoin. Fait que ça donne un 40% qui a été cible quand on additionne les chiffres, ce qui est majeur. Et ça, malheureusement, peut mener à de l'épuisement au travail. 15,3% ont été en arrêt de travail pour épuisement au cours de la carrière, dont 9% liés à l'intimidation au travail. Il y a aussi un chiffre, là, puis là, je l'ai ici, c'est 13% de l'échantillon qui rapporte des pensées suicidaires qui ont un lien avec l'intimidation. Ces chiffres-là sont frappants. Puis je reviens un peu à ma toute première question quand je demandais qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce sujet d'étude-là. Étiez-vous surpris, la gang de profs qui était à l'étude, étiez-vous surpris de sortir des chiffres aussi percutants?
Oui, surtout, tu sais, le 49,9% de gens qui ont été soit la cible, soit témoins, soit les deux, là, ça, c'est immense, là. Évidemment, il y a aussi un biais dans la mesure où les gens qui ont répondu à l'étude, c'est des gens qui se sentaient interpellés, là. Faut quand même le mentionner. Mais ça, oui, c'est très préoccupant. Les idées suicidaires, ben, c'est super préoccupant, mais en même temps, moi, je m'y attendais un peu. T'sais, on anticipait que c'était lié. Puis là, ça vient nous montrer que c'est lié, mais ça fait en sorte que si t'es intimidé au travail, si tu subis de l'intimidation, t'es comme à 140 ou 150% plus à risque de développer des idées suicidaires. Là, c'est pas rien. Puis ensuite, vous parliez de d'autres impacts, des arrêts de travail. Il faut savoir donc que l'intimidation a des impacts sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la santé financière aussi. Si t'es en arrêt de travail pendant plusieurs mois parce que tu t'es fait intimider, ben ça a un impact sur tes finances. Ça a des répercussions à la maison, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille. Donc, tout ça, là, c'est vraiment, ça a des impacts à plein niveau. Fait que ça remet en lumière le fait qu'il faut, s'y attarder, dans le fond, là.
Je dévie un peu du projet de recherche en tant que tel. Fait que là, je comprends qu'il n'y aura peut-être pas de chiffres associés ou quoi que ce soit, mais je me doute qu'avec des discussions que vous avez eues ou par expérience, vous allez pouvoir répondre. Là on parle d'expérience d'intimidation chez les professeurs, mais en début d'entretien, vous avez mentionné de l'intimidation de professeurs envers des élèves. C'est quelque chose de courant?
Il y a quand même un peu plus de littérature là-dessus, dans la mesure où, tu sais, c'est souvent, tu sais, il y a un rapport d'autorité. Fait que là où il y a un rapport d'autorité, d'habitude, il y a comme un terreau fertile à l'intimidation. Puis même chez les profs, on le voit, il y a des profs qui ont plus de seniorité que d'autres, puis eux s'engagent plus dans l'intimidation, ont aussi une plus grande sécurité d'emploi. Fait qu'en termes de, entre les étudiants puis les profs, ben on le voit souvent dans des relations de recherche, tu sais, de direction de recherche, par exemple. Ben la direction de recherche a un ascendant sur la personne qui est sous sa direction. Ça peut être, par exemple, là aussi, on peut voir du vol de brevets, du vol de propriété intellectuelle, de s'imposer comme un auteur senior sur une publication, par exemple, alors qu'on n'a pas fait vraiment de travail. Donc, tout ça, ça se voit effectivement, même si, c'est ça, dans le cadre de ce projet-ci, on s'y est pas vraiment, on voulait vraiment s'attarder aux relations entre les collègues, là.
Et est-ce que, à l'inverse de l'intimidation d'étudiants envers des professeurs au cégep, c'est quelque chose qui se voit? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup dans les dernières années des maudits jeunes qui savent plus vivre puis qui connaissent pas le rapport à l'autorité puis s'en foutent un peu. C'est quelque chose qui se voit?
Ben, je pense que c'est quelque chose qui se voit. On en a entendu parler. Ça rejoint un peu le phénomène de mobbing, là, quand on a un groupe qui s'attaque à une personne, par exemple. Après ça, est-ce que c'est largement commun ou est-ce que c'est juste anecdotique? Je ne serais pas en mesure de vous le dire. A priori, j'aurais quand même tendance à penser que les étudiants, tu sais, le rapport de force, c'est surtout le professeur qui l'a. Ce qui ne veut pas dire que l'inverse n'arrive pas, là, je veux quand même être bien clair, mais a priori, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être plus anecdotique.
Catherine Malbeuf-Urtubise, une des responsables du projet de recherche sur les expériences en intimidation chez les professeurs, psychologues, professeurs aussi à l'Université Laval. Merci beaucoup pour votre temps ce matin, super intéressant.
Merci beaucoup.
Bye bye. Je vous rappelle qu'Audrey n'était pas là ce matin pour l'Open Mic. Elle devrait être de retour à Boulevard dans les prochaines heures. Au retour de la pause, Pascal CV va venir faire son petit tour. On va également mettre la table pour le premier match de ce soir de la série finale de l'Est entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Et là, je vais faire un petit sondage, tiens. Puis, je vais respecter ce que nous dit la démocratie. Je vais respecter la démocratie. Okay? 418-971-1021. Voulez-vous entendre ma toune? La toune On est game, on va battre les Hurricanes. Ma nouvelle toune des séries. 418-971-1021. Moi, je pense qu'on est avant le premier match. Je pense qu'elle n'est pas brûlée encore. On l'a lancée hier. Moi, je pense qu'elle mérite d'être entendue. 418-971-1021. Oui ou non, on fait jouer la toune des séries, la nouvelle toune des séries de Maxim Gunn Kelly. Puis on va faire des nouvelles aussi. On revient dans les prochaines minutes. 418-971-1021 pour votre vote référendaire.
L'Open Mic avec Audrey Pinchot.